Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quand les temps furent accomplis, le Verbe de Dieu incarné a voulu naître et grandir dans une famille, qui serait non seulement un modèle à imiter, mais aussi source méritoire de la grâce, dont toutes les familles auraient besoin pour pratiquer les vertus de ce modèle incomparable qu'est la Sainte Famille. Pour restaurer le monde, Jésus a voulu restaurer les familles, qui sont la base, le fondement de la société. Ce sont les familles chrétiennes, formées dans l'Église, qui ont petit à petit transformé le monde païen, qui vivait dans les ténèbres de l'erreur, pour en faire la civilisation chrétienne, source de tous les biens. C'est lui, Dieu, qui a institué la famille. Il a voulu être le centre de la Sainte Famille pour que les membres de la famille chrétienne le prennent pour centre et principe de sainteté concrète de leur propre famille. Pour imiter un modèle, il faut le contempler. Voyons d'abord quelques considérations sur la Sainte Famille. Dans cette famille divine, tout est parfaitement réglé et ordonné. Chacun y est bien à sa place. La charité, l'union, la paix y règnent continuellement. Tous sont zélés pour accomplir la volonté de Dieu et ne reculent devant aucun sacrifice. Pensons à la fuite en Égypte, à l'humble travail dans l'atelier de Nazareth. La prière y est fréquente, à heure réglée. Cette famille, quoique humble et pauvre, répand autour d'elle la bonne odeur de ses vertus. Ceux qui la fréquentent, parents, voisins, clients de Saint-Joseph, sont attirés par le climat de bonté, de simplicité, d'humilité, de sagesse qui y règne. Ils en repartent consolés s'ils souffrent, résolus à s'amender s'ils sont pécheurs. Saint Joseph, quoique le moins digne, en est pourtant le chef. Dieu en effet l'a doté de toutes les grâces et de tous les dons que méritait la charge de chef de la Sainte Famille. Il lui a donné l'autorité paternelle et un cœur de père pour aimer Jésus. Les termes de père nourricier, père adoptif, père tutatif, putatif, que nous connaissons bien, sont insuffisants pour désigner la paternité de Saint Joseph. Bien que partielle, puisqu'elle lui manque la génération selon la chair. Cette paternité de Saint Joseph est pourtant une paternité au sens propre, parce qu'il exerce cette fonction comme époux. Par son mariage avec Marie, son renoncement à la génération selon la chair et sa vigilance à garder la virginité de Marie, il a permis l'incarnation du Fils de Dieu. C'est pourquoi Bossuet dit que, puisque Saint Joseph a tant de part à la virginité de Marie, il en prend aussi du fruit qu'elle porte. Et c'est pourquoi Jésus est son Fils. Que dire de l'amour mutuel de Marie et de Joseph ? Pour Marie, Joseph était son Seigneur, à qui elle obéissait avec un immense amour, qui ne distingue pas la sainteté et le rôle de chef. Saint Joseph et la Sainte Vierge ne faisaient qu'un cœur et qu'une âme, dit Saint Bernardin de Sienne. Ils étaient tous deux dans un même esprit, une même affection, un même tout. Quant à Marie, les mots sont impuissants pour exprimer sa place de mère d'épouse. Elle dépasse en vertu tout ce que l'histoire a pu retenir des meilleures épouses et mères. Elle est le chef-d'œuvre de Dieu, la fille bien-aimée du Père, la mère admirable du Fils et l'épouse immaculée du Saint-Esprit. Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa vie publique pendant 30 ans, est le centre de la Sainte Famille. Il enseigne par son exemple les vertus que les enfants doivent pratiquer. L'humilité, l'obéissance, la piété, le respect, le dévouement. C'est lui qui fait grandir Joseph et Marie en grâce. En méditant tous les événements de la vie de Jésus, ses paroles, son enseignement, Marie et Joseph ont reçu les grâces leur permettant d'accomplir leurs vocations respectives dans l'œuvre de la rédemption. Ils ont mérité par Jésus et avec Jésus toutes les grâces dont les parents chrétiens ont besoin pour accomplir leur vocation matrimoniale, qui consiste dans la fidélité à tous les devoirs qui découlent des deux fins du mariage, la procréation et l'éducation des enfants et l'amour mutuel. Mettre des enfants au monde, les éduquer pour en faire des saints du ciel et des pierres solides de la société temporelle, demande une source d'énergie qui dépasse les forces naturelles. C'est Jésus Sauveur qui doit être, comme dans la Sainte Famille, le foyer qui éclaire les intelligences, incline les volontés vers celles de Dieu, réchauffe les cœurs et dilate les âmes. Sans cela, les heureux fruits d'une bonne éducation chrétienne ne seront pas atteints et la société en pâtira. Pourquoi voit-on de plus en plus de familles chrétiennes qui, malgré la pratique des sacrements et la prière, sont confrontées à de grandes difficultés? Ne serait-ce pas parce que les exigences de la charité mutuelle entre époux sont méconnues et donc mal pratiquées? Quelles sont-elles? La charité est indispensable à la vie d'un foyer. C'est elle qui va élever l'amour naturel entre époux pour le purifier, le sanctifier. C'est une vertu difficile à pratiquer parce qu'elle doit être constante. Elle doit vaincre sans cesse l'égoïsme qui est en chacun de nous. Il faut que les époux prennent conscience de cela et soient persuadés qu'il leur faudra des efforts incessants contre leur égoïsme pour que la charité grandisse en eux de jour en jour. Cette charité, on la reconnaît par des qualités qu'on retrouve dans le cœur, dans l'esprit et dans les actes. Dans le cœur, l'esprit de pardon, la tendresse, la bienveillance. Dans l'esprit, une vigilante attention pour discerner les besoins du conjoint et s'ingénier à trouver les moyens de les soulager. Dans les actes, la patience, la douceur, la disponibilité, le dévouement. Cet amour de charité des époux doit se traduire par l'union des cœurs, qui crée dans le foyer un climat où les époux puiseront douceur, force, paix et joie qui allégeront les charges et les épreuves de la vie. Les enfants y trouveront les conditions d'une bonne éducation. Vous me direz peut-être, c'est un bel idéal, réservé à un petit nombre. Non. L'union des cœurs est possible à tous les époux chrétiens, car notre Seigneur Jésus-Christ donne à tous les époux fidèles à leurs devoirs à la fois l'ordre de s'aimer et la possibilité et la grâce de s'aimer. Une des plus grandes difficultés de cette union des cœurs, c'est de se comprendre. Il ne s'agit pas seulement de découvrir progressivement l'autre, mais aussi de l'accepter tel qu'il est. Jésus nous aime tel que nous sommes. Nos défauts, notre inconstance, nos péchés même ne le rebutent pas. Il est sans cesse notre Sauveur. Il sollicite sans se lasser notre bonne volonté pour que nous voulions nous laisser changer par lui. Car c'est lui qui change les cœurs. C'est lui qui incline les volontés. Donc de même dans la famille, l'époux et l'épouse, ce n'est pas l'époux qui va changer l'épouse, ni l'épouse qui va changer l'époux, mais c'est chacun, en étant fidèle à la grâce de Dieu, qui donnera l'exemple et pour que l'autre puisse changer. Il en est de même pour les époux. Ils doivent s'aimer malgré leurs défauts et reconnaître humblement qu'ils ont besoin de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour purifier et faire grandir leur amour. Pour faciliter les choses, il est bon pour les époux de prévoir régulièrement un temps de réflexion à deux, où ils puissent en toute charité et clarté, sous le regard du Christ, échanger pour mieux se connaître. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus entretenait la flamme de la charité pour Jésus en jetant des brindilles, c'est-à-dire des petits actes d'amour, des petits sacrifices. Elle appelait ça « jeter des fleurs ». Il faut faire la même chose pour la charité mutuelle entre époux. Vous devez en entretenir la flamme par des petits riens, par exemple des mots de félicitation, de renoncement, de simples cadeaux à propos d'un anniversaire, d'une fête. La charité mutuelle dans le foyer demande aussi l'entraide des époux, leur collaboration au niveau matériel, intellectuel et spirituel. C'est une lente et mutuelle éducation et formation conjugale, dit le pape Pie XII, nécessaire à deux âmes qui s'instruisent l'une l'autre pour arriver à une collaboration vraie et intime. Et il donne l'exemple de Sainte Anne Maria Taiji comme mère de famille et modèle d'épouse chrétienne. Elle était mère de 7 enfants, morte en 1837 à l'âge de 68 ans. Son corps fut retrouvé intact. Malgré les différences d'origine, de tempérament, d'éducation, d'inclination et de goût qu'il y avait entre elle et son mari, le portefaix Dominico, donc un homme très simple, néanmoins, dit le pape, elle s'était admirablement entendue et accordée avec cette âme si différente de la sienne. Cette collaboration entre les époux va pouvoir s'exercer dans tous les domaines, mais principalement dans le travail lorsqu'il est commun aux deux époux et surtout dans l'éducation des enfants. C'est toute une série de sermons qu'il faudrait pour en parler d'une manière exhaustive. Ne retenons que quelques points importants. L'âme de cette éducation est la vie surnaturelle des parents. Pas une vie surnaturelle comme plaquée, une vie naturelle qui donne la vie vraiment à toute la famille. Elle doit être nourrie par les sacrements, la prière et principalement l'oraison, dans laquelle Dieu donne spécialement des grâces pour mieux se connaître et connaître sa volonté. L'expérience prouve que les familles où les époux donnent un quart d'heure de leur temps au bon Dieu, dans l'oraison, sont bénies toutes spécialement. Et les enfants en bénéficient, grandissant plus facilement en sagesse, en grâce devant Dieu. Mais mon père, me direz-vous, nous sommes déjà si chargés. Ce n'est guère possible. C'est une question de priorité. Dieu premier servi. Faites le compte du temps passé sur Internet dans des choses inutiles en une journée. Ne dépasse-t-il pas un quart d'heure par jour? Il faut aussi nourrir votre intelligence, en vous instruisant de la doctrine chrétienne, de la spiritualité, c'est-à-dire des voies de l'union à Dieu, à laquelle tous nous sommes appelés, à laquelle tous nous devons tendre. Dans cette œuvre d'éducation, chaque époux doit être à la place voulue par Dieu. C'est l'époux qui est le chef de famille. Il a des grâces d'État pour représenter le Christ et il doit agir au nom de Dieu et montrer l'exemple, comme Saint Joseph, en étant zélé pour conduire sa famille selon les lois de Dieu et en les observant lui-même le premier. Et il utilisera cette autorité pour diriger sa famille avec fermeté, mais elle sera tempérée par la bonté, la douceur et par l'amour. L'épouse, elle, est la compagne donnée par Dieu à l'homme pour l'aider, le soutenir, le conseiller. Elle n'accomplira sa vocation de femme, d'épouse et de mère que si elle est bien à sa place, comme la très sainte Vierge Marie. Elle sera alors le soleil du foyer. Pour l'éducation des enfants, il faut être lucide. Ils ont tous les blessures dues au péché originel qui restent après le baptême et qui nous sont laissées par Dieu pour mener le combat spirituel et mériter le ciel. Vous devez donc, dès les premières années, discerner ces défauts pour les corriger avant qu'ils ne prennent racine. C'est dans les 4 premières années que l'éducation d'un enfant est faite dans les choses essentielles. Quand cela est fait, toute la suite de l'éducation est facile. La sanctification de la famille chrétienne est une œuvre difficile qui comporte la croix. Mais cette croix, elle est faite justement pour vous faire progresser en sainteté. C'est pourquoi la messe doit être le centre de la vie de la famille. En apportant vos soucis, vos souffrances, en les unissant au sacrifice de la messe, au sacrifice de notre Seigneur, vous obtiendrez de notre Sauveur les grâces nécessaires pour la bonne santé de vos familles. Alors qu'en ce jour de fête, la Sainte Famille vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin pour l'imiter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.